repris ce mercredi à la SENCO des travaux sur l'arrangement particulier entre les parties signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les discussions se seront focalisées sur la clé de répartition des postes ministériels et le mode de désignation du Premier ministre. S'agissant du Premier ministre, la majorité veut que le rassemblement présente au chef de l'État une liste des candidats, tandis que se basant sur l'accord du 31 décembre 2016, le rassemblement estime qu'il lui appartient de désigner le Premier ministre. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Jean-Marc Kabunda Kabound. Bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de la radio de la paix.
Merci. Vous êtes secrétaire général de l'UDPS, parti membre de la plateforme dénommée Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. André-Alain Atundu, bonsoir monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle, professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Salut Alain.
Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les travaux autour de l'arrangement particulier entre les parties prenantes aux négociations politiques directes ont repris au centre interdiocésain. Cette plénière a permis aux participants d'analyser et d'adopter les recommandations faites par les deux sous-commissions qui ont travaillé depuis le week-end dernier sur la répartition des postes ministériels et de la mise en place du comité national de suivi de l'accord. Par ailleurs, après la première partie des travaux de ce mercredi, les participants sont sortis de la salle avec des idées divergentes. Des détails avec Askenzig Batayoro.
Selon le participant, les travaux n'ont pas avancé ce mercredi au centre interdiocésain. Le rassemblement dit ne pas comprendre l'attitude des délégués de la majorité présidentielle qui défendent que la répartition de postes se fasse sur base d'une configuration classique de composantes, c'est-à-dire attribution de postes séparés pour l'opposition, la majorité présidentielle et la société civile. Valentin Moubaki.
Nous sommes ici deux parties prenantes, ceux qui ont signé la Cité de l'Union africaine et ceux qui n'ont pas signé. Mais revenir aujourd'hui pour dire non, 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 cette configuration n'est plus bonne, revenons à une configuration qu'ils appellent classique, c'est-à-dire majorité, opposition et société civile. Vous remettez en cause l'accord et on ne peut pas l'accepter.
Mokunda Bonza de l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine estime que le rassemblement, moins encore la majorité présidentielle, ne peut prétendre se tailler la part des lions au sein du gouvernement de transition.
De toute façon, le rassemblement n'a pas gagné les élections, n'a pas le droit de tout avoir. Le gouvernement, lui, il n'a pas organisé les élections, il n'a pas le droit de tout avoir. Nous devons tous essayer de nous retrouver ensemble pour gérer et organiser les élections demain.
Selon la SENCO, la commission gouvernance doit continuer à parfaire son rapport. Entre-temps, la plénière continue d'examiner ce soir le rapport de la commission de la mise en place du Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre 2016.
Merci Askin Zigbiatayoro. Jean-Marc Kabunda Kabound, vous êtes secrétaire général de l'UDPS, parti membre du rassemblement. Qu'est-ce qui bloque en ce qui concerne la répartition des postes ministériels, Jean-Marc Kabound?
Ah oui, merci beaucoup Guimaté. Je commence par saluer l'ambassadeur André Alatundu, saluer aussi le prof Bob Kabamba. Oui, je ne suis pas pessimiste pour dire qu'il y a blocage au niveau du centre interdiocésain. Mais toutefois, il faut relever que, comme par nature, quand on est dans des négociations politiques, il y a toujours une surenchère politique où les uns les autres pensent qu'il faut lever la barre trop haut pour espérer glaner quelque chose. Mais malheureusement, c'est là que l'État nous est compté et que le peuple nous observe et veut voir ces processus aller le plus vite que possible afin d'aboutir à des élections avant 2018. En ce qui concerne les arrangements particuliers, nous nous sommes dit, c'est ce qui après la signature de l'accord, que nous devions discuter sur la mode de désignation du Premier ministre, discuter aussi sur le profil du Premier ministre, discuter également sur la formation, sur le format, bien entendu, du gouvernement et la composition de ces gouvernements. Je peux aussi ajouter aussi la clé des répartitions au sein de ces gouvernements. Mais à ce niveau, nous nous sommes quand même mis d'accord avec nos amis sur le format du gouvernement. D'un commun accord, nous avons convenu que le gouvernement aura 46 membres, y compris le Premier ministre. Ça a été un acquis, nous sommes tous mis d'accord à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur la Commission nationale de suivi de l'accord. Là encore, nous, au niveau du rassemblement, nous avons concédé parce que nous avions exigé une vice-présidence à part la présidence qui devait être gérée par le président du Conseil du rassemblement, dont le nom figure même dans l'accord parce que là, il a été pris comme personnalité et mis là-bas au regard de sa notoriété et de son poids politique. Nous, en tant que rassemblement, nous avions le droit d'exiger une vice-primature parce que il y a une jurisprudence dans ce pays, dans l'accord signé à San City, le pouvoir avait bénéficié d'une vice-présidence après qu'on ait accepté que le président Kabila devait rester à la tête du pays. Mais vous allez comprendre, notre peuple qui m'écoute en ce moment doit aussi savoir que le rassemblement a concédé. Nous avons laissé tomber d'exiger une vice-présidence au profit du front de la majorité présidentielle et de la société civile, bien entendu. De ce côté-là, il n'y a pas de débat. Les débats restent autour de la préséance qui sera mis comme premier vice, deuxième vice et troisième vice. Cela, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas concernés. En ce qui concerne la désignation du premier ministre, ici, je pars de vers moi l'accord signé le 31 décembre. Voilà ce que dit le point 3 romain 3.3. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, barre rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. C'est le français que nous parlons, parce que nous sommes à la radio. Mais je dois dire à nos auditeurs qu'il est fait mention plutôt d'un premier ministre, pas des premiers ministres à présenter au président de la République.
Jean-Marc
On parle d'un premier ministre.
Jean-Marc
Donc aujourd'hui, nous constatons, oui,
c'est plutôt Alain Hirung. Et donc,
Alain Hirung, voilà.
Et donc, vous confirmez que la majorité demande au rassemblement de présenter une liste avec plusieurs candidats premiers ministres.
Bien entendu, c'est là même le goulon d'étranglement, c'est là où nous ne comprenons rien du tout. Parce que, comment voulez-vous que nos amis ont accepté que nous puissions présenter un premier ministre et qui nous exige en plus de présenter plusieurs noms? À quoi cela s'apparente? Cela, c'est un mauvais jeu. Nous ne pouvons pas souscrire à un tel jeu, d'autant plus que les enjeux sont de taille. Nous n'avons que moins de 12 mois maintenant, et nous avons le devoir d'organiser les élections dans ce délai qui est bien marqué dans l'accord, et nous n'avons pas, nous, droit à l'erreur, de présenter une liste de personnes et de donner l'occasion aux autres de choisir un premier ministre à notre place. Du reste, qui engagera le rassemblement?
Jean-Marc Cabou.
Nous voulons ici présenter au président de la République un candidat qui nous rassure, qui aura la lourde responsabilité d'engager la nation et dont le rassemblement portera la responsabilité de tous les actes qu'il portera comme Premier ministre.
Merci Jean-Marc Kaboun, je vous redonne la parole tout à l'heure. André Alain Toundou, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle, vous avez suivi Jean-Marc Kaboun. Pourquoi la majorité exige en ce moment une liste des candidats Premier ministre, contrairement à ce que prescrit l'accord du 31 décembre 2016?
Je voudrais commencer par présenter les meilleurs voeux à Kaboun, qui a la lourde responsabilité de ses fonctions, ainsi qu'au professeur qui a la lourde responsabilité de former nos élites à venir de demain. Tout ceci me semble un faux débat.
Pourquoi?
Une mauvaise querelle, un combat sans objet. Au regard de prérogatives reconnues par le chef de l'État. Que dit la Constitution d'abord? La Constitution, en son article 78, dit « Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Premier ministre sortira de la volonté de la majorité présidentielle. On l'a vu, lors de son premier mandat, la majorité présidentielle a donné la primature à M. Gisenga et à M. Mouzitou. Et puis, au début, au cours de ce mandat, on a donné à M. Matata. Donc c'est un faux débat. Faux débat au regard des prérogatives qui sont reconnues au président de la République, notamment le droit de veto. Le président de la République a le droit de recuser un candidat Premier ministre qui ne serait pas compatible de travailler avec lui. Et donc, ceci n'amène pas un renversement fondamental de principe en disant « donnez-moi 2, 3, 4, 5 noms pour que je puisse choisir des noms et pour que nous puissions peut-être négocier autour de ces 5 noms ». C'est la pratique courante ici chez nous, et ça n'énerve ni la loi, ça n'énerve ni la démocratie. Alors, je ne voudrais pas penser que cet acharnement autour d'un nom inconnu voudrait servir à régler quelques problèmes de leadership au sein du groupe. Non, je crois que l'intérêt majeur de notre démocratie, du processus électoral aujourd'hui, pour la sauvegarde de la paix, voudrait que l'on puisse se plier aux pratiques. Vous donnez 2, 3, 4 noms, 5 noms, ce sont tous du rassemblement, et le président aura le pouvoir discrétionnaire de dire « j'accepte celui-ci pour telle raison, telle autre ». Ceci est de pratique même quand c'est la majorité présidentielle qui désigne, qui présente un candidat. On donne toujours plusieurs noms.
Et donc, même c'est la latitude au président de la République d'exercer son droit de veto, comme on veut dire.
Mais c'est tout à fait. Le droit de veto implique le droit de choisir. Parce que ça revient au même. Vous donnez un candidat, le président n'est pas d'accord avec lui. Vous refaites l'exercice, il n'est pas d'accord avec lui. C'est une perte de temps inutile. Alors, vous donnez une liste en préséance. D'abord celui-ci, puis celui-là, et puis celui-là, et là-dedans, vous pouvez négocier.
Alors, mais l'accord, notamment la disposition qu'a lu Jean-Marc Kaboun, le point 3, Romain, point 3, je reprends, qui dit « Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, représenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, rassemblement est nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. »
Oui, je voulais lire l'article 78, et je vous dis que la pratique politique ici chez nous voudrait que pour permettre aux chefs de l'État de choisir en toute sérénité et en toute prérogative, n'est-ce pas, le Premier ministre, qui sera appelé à être son principal et premier collaborateur. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que le président de la République puisse travailler avec quelqu'un qui lui est imposé. Non, ce sont des règles de convivialité politique. Je crois que ça ne touche en rien l'intérêt du rassemblement. Pensons à la paix, à la sauvegarde de la paix sociale.
Et en quoi se gênerait le président de la République d'accepter ce candidat unique que présenterait le rassemblement?
Ce n'est pas de pratique. C'est ses prérogatives. C'est le droit de veto. C'est le droit de veto. Quand on accepte le droit de veto, c'est-à-dire qu'on accepte que celui-là choisisse. Et la pratique coutumière en la matière vient consolider cette présentation des choses.
Alors, vous avez suivi dans le reportage de notre confrère Askin Zigbia l'inquiétude de Valentin Moubaké, et également sur qui dit ne pas comprendre l'attitude des délégués de la majorité présidentielle qui défendent que la répartition des postes se fasse sur base d'une configuration dite classique, majorité, opposition, société civile.
Il devrait d'abord chercher à comprendre pourquoi la majorité présidentielle se comporte ainsi.
Pourquoi?
Tout simplement parce que toutes les parties prenantes aux discussions ont pris l'engagement solennel de respecter la Constitution dans toute son intégralité. Et la nomenclature des composantes de la vie politique ici chez nous est définie. la majorité, l'opposition et la société civile. Et donc, il n'est pas question de biaiser le processus électoral en mettant en jeu un principe qui énerve la Constitution, pour ne pas dire carrément qui est contraire à la Constitution. Et ceci, je ne vois pas, nous sommes deux partis, c'est la majorité, et c'est l'opposition, et c'est la société civile. En quoi cela gêne-t-il ? Il voudrait nous amener dans une situation paradoxale où la majorité serait mise en minorité par l'opposition. Ceci n'est pas acceptable.
Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Venez de suivre Jean-Marc Kabound et M. André-Alain Atundu. Professeur, comment vous analysez ces divergences ?
Je dois d'abord reconnaître qu'il y a eu énormément de progrès accomplis, aussi bien par la majorité que l'opposition. J'ai participé à une autre émission avec d'autres collègues, professeurs, qui étaient très sceptiques sur le fait qu'ils ne voyaient pas comment l'opposition et la majorité arriveraient à un accord. Et aujourd'hui, on est là sur une question des détails. Et moi, je crois que le plus grand chemin a été accompli et que les détails restants, avec beaucoup de bonne volonté, les acteurs politiques vont finalement trouver de passerelles de solutions.
Mais on dit également que le diable est dans les détails.
Ah, bien sûr, bien sûr. Le diable est dans les détails et c'est pour ça qu'il est encore possible que les acteurs se mettent ensemble, parce que pour le moment, quand on regarde sur l'essentiel, sur les grandes matières qui les divisaient, ils sont plus ou moins d'accord. Il reste bien les détails, et j'espère qu'ils auront le temps de régler les détails. Mais en fait, quand vous revenez sur la question du Premier ministre, dès le départ, on avait déjà compris que le concept même de transition, le contenu à donner au concept de transition posait problème. Qu'est-ce qu'on appelle transition aujourd'hui ? En quoi la transition d'aujourd'hui est-elle différente de la transition qu'on a eue avant les élections ? Et vous avez là une période qu'on appelle transition. Et pendant la transition, quand vous regardez les anciennes transitions, comment le Premier ministre a été choisi ? Et aujourd'hui, les réserves exprimées par les rassemblements sont aussi d'ordre historique. Vous vous rappellerez que dans certains accords, il était dit que le Premier ministre sera issu de la famille à laquelle n'appartient pas le chef de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et au point de vue de la mise en œuvre de cet accord, qu'est-ce que cela a donné comme résultat ? Apparemment, le rassemblement voudrait se rassurer que, au moins sur la question de la désignation du Premier ministre, les choses seront plus claires. Et il me semble bien que déjà au niveau de l'accord, c'était clair. Toute la question qui est posée aujourd'hui, c'est même celle de l'enjeu du Premier ministre. Le Premier ministre, il ne faut pas, et moi je crois, je comprends bien la situation de la majorité, il ne faut pas qu'il y ait un Premier ministre qui fasse ombrage au chef de l'État. Il faut également éviter...
dans une cohabitation.
Absolument. Il faut absolument que ça soit une cohabitation pacifique, et ils ont apparemment besoin d'avoir un certain nombre de garanties sur la personne qui sera présentée par le rassemblement. Là, se situe le véritable problème.
Et donc, le président de la République a le droit d'exercer son veto, comme disait M. Atundu.
Alors, il faudra comprendre que nous sommes là dans une situation où les élections n'ayant pas été organisées dans le délai, on a risqué un chaos. On a risqué un chaos. Et parce qu'on a risqué un chaos, eh bien, on ouvre une nouvelle période qu'on appelle transition. Tout le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de savoir, est-ce que le chef de l'État sera le même chef de l'État pendant qu'il avait les 5 années de mandat que pendant la période qu'on ouvre, qu'on appelle période de transition. Déjà, maintenant, il faut reconnaître que le Premier ministre n'est plus le résultat, n'est plus le produit des rapports de force au sein du Parlement. S'il était le produit des rapports de force au sein du Parlement, il ne viendrait pas de l'opposition. Ça veut dire que les rapports de force sont sortis du Parlement. Et parce qu'ils sont sortis, qu'ils sont en dehors du Parlement, eh bien, on tend la main à l'opposition, on lui dit, eh bien, présente-nous un candidat, ou si vous voulez, comme les choses semblent aujourd'hui être suggérées par la majorité, présente-nous une liste. Mais ce n'est pas cela qui est prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là dans un cas qui n'est plus le cas consigné dans la Constitution. Et c'est là que ça pose un autre problème. Tantôt on se réfère à la Constitution, tantôt on se réfère à l'accord. Comment donc arriver à une bonne harmonisation, à une bonne référence, n'est-ce pas, qui tiendrait compte aussi bien du prescrit de la Constitution que celui de l'accord? Parce que là, et voilà pourquoi nos amis de Rassemblement, à un moment donné, ont parlé de régime spécial. Le régime spécial en anticipant évidemment sur le fait que la logique de la transition est une logique de crise, une logique de conjoncture. Et pendant la conjoncture, il y a bien évidemment une difficulté à appliquer à la fois la Constitution telle qu'elle est stipulée, telle qu'elle stipule toutes les dispositions et à appliquer l'accord. Et quand vous regardez, cette alchimie devient quand même assez difficile.
Alors, professeur, dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne cette alchimie qui est difficile à faire, il y a ce problème des postes ministériels qu'il faudrait partager entre le Rassemblement et la majorité, ou entre le Rassemblement, la majorité et la société civile.
Bon, en fait, vous devez comprendre que pour la majorité, il y a des postes clés. Et quand vous regardez un poste comme celui de l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire également le contrôle de la sécurité des élections, ça veut dire le contrôle des services d'intelligence. Et donc, il y a là, à mon avis, une certaine hésitation pour la majorité à céder le contrôle de l'appareil étatique à l'opposition. Et donc, ils se disent... Mais de toutes les manières, c'est nous qui avons gagné les élections. Même si notre mandat est terminé, nous n'allons pas tout concéder à l'opposition.
Merci, professeur. Jean-Marc Kabound, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kinshasa.
Joseph Aïle, depuis Kinshasa, Ngaliema. La majorité présidentielle n'a aucun intérêt dans la nomination du premier ministre parce que l'honorable Badibanga est à son service. Considérez seulement le folklore vécu le jour de l'investiture pour sa convaincre. Le retard de nomination du Premier ministre est de l'entière responsabilité de nos leaders du Rassemblement qui n'a pas présenté son candidat. Le point 3.3.4 de l'accord du 31 décembre 2016 n'est qu'un piège tendu devant le Rassemblement qui doit le sauter afin de ne pas plus tard tenter de se prévaloir de sa propre turpitude.
Jean-Marc Kabound, qu'est-ce que vous répondez à Joseph Aïlé?
Oui, oui, il a totalement raison. Notre compatriote soudait plus près ce qui se faisait ou ce qui se fait encore jusqu'aujourd'hui au centre interdiocésain. Il doit aussi comprendre que nous avons eu à poser ces problèmes. Personnellement, j'ai eu à demander que cette question soit élucidée dans l'accord même. Mais parce que nous étions coincés par le temps, il a été dit que tout était versé dans l'arrangement particulier. Mais nous avons signé l'accord du Saint-Sylvestre de bonne foi. Ici, je voudrais revenir à ce que l'ambassadeur Andra Latundu a dit tout à l'heure. Mais c'est parce qu'il y a eu une grave crise au pays. Notre pays a frôlé les pires. Que nous nous sommes dit qu'il fallait discuter, se mettre d'accord pour sauver le pays. Ici, il n'est plus question d'une majorité ou d'une opposition parce que depuis le 19 décembre 2016, le régime de M. Kabila n'a aucune légitimité ni légalité aussi. Nous ne devons pas dire des choses qui s'apparentent à jeter de la confusion dans les têtes de nos compatriotes. Nous, au niveau du Rassemblement, nous avons aussi concédé. Nous sommes allés là-bas, dans ces négociations politiques, nous avons laissé des plumes là-bas. Mais ici, il est question de privilégier l'intérêt général du pays. C'est ainsi que nous nous sommes dit, mettons un temps, 12 mois ce n'est pas beaucoup, pour organiser des élections et remettre le pays sur les rails. On ne peut pas nous dire des histoires telles que le Premier ministre bloquerait le fonctionnement des institutions. Mais là, je dois aussi rassurer notre peuple qu'au niveau du Rassemblement, nous n'avons aucune intention de proposer un Premier ministre conflictuel. ni moins encore quelqu'un qui irait là-bas pour bloquer les choses. Parce que nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui après la signature de l'accord, et nous savons que nous avons un devoir sacré, un devoir avec l'histoire d'organiser les élections dans ces pays avant 2018. Et
Jean-Marc
ces élections,
Kekabon,
nous les organiserons avec M. Kabila comme président de la République.
Jean-Marc
pour toute
Kekabon.
Personne qui réfléchit, c'est un faux débat, comme l'a dit lui-même l'ambassadeur André Alatoundou.
Jean-Marc
Mais
Kekabon.
Ici, il faudrait que nous puissions dire... Oui, laissez-moi terminer.
Très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, il faudra aussi dire que nous n'avons pas intérêt à présenter un Premier ministre qui soit la odeur de sainteté de la majorité actuelle, parce que là, il y a risque qu'on n'ait pas des élections, parce qu'il a été clairement établi qu'après 5 ans, nos amis n'ont pas voulu organiser des élections. Et ça a été démontré que c'est des mauvaises fois qu'ils n'ont pas organisé ces élections.
Jean-Marc Kekabon.
Donc, ici, on doit être le juste milieu, avoir un Premier ministre qui doit collaborer, mais aussi qui doit aller tout droit au but quant aux objectifs assignés à ce gouvernement de transition, donc l'organisation des élections.
Alors, Jean-Marc Kabound, pourquoi le Rassemblement craint de présenter cette liste du moment qu'elle a confiance en ses cadres qui sont compétents, qui connaissent la ligne de conduite du parti, qui ne seront pas facilement débauchés? Pourquoi le Rassemblement, vous ne nous direz pas que le Rassemblement manque 5 personnalités de haute carrure, incorruptibles, et ainsi de suite, à présenter sur une liste?
C'est un piège, monsieur le journaliste. Nous pouvons présenter même une liste de 30 personnes intègres, fidèles. Mais là, on donnera maintenant la chance au pouvoir actuel de négocier un Premier ministre qui soit favorable à leur demande. Vous donnez la chance aux autres de désigner. Mais nous savons la pratique politique dans ces pays n'est pas correcte. Il y a toujours en dessous là des histoires qui se font, qui nous font peur, parce que là, on ne sait pas quels seront les contacts entre le pouvoir et ses candidats proposés. Donc c'est le mieux offrant qui sera, par exemple, retenu. C'est ça le piège que nous ne voulons, c'est le piège dans lequel nous ne voulons pas tomber, où nous nous disons, nous nous présentons un seul candidat. C'est ce qu'a dit l'accord.
Mais
quand on nous oppose l'article
Merci.
78, mais non, si l'article 78 a été repris dans ces paragraphes, c'est justement parce que c'est le président de la République qui devait nommer,
Merci.
Mais pas parce qu'il y a une majorité qui s'est dégagée après l'accord, parce que nous, bien que nous serons dans ce gouvernement, nous ne constituerons jamais une majorité
présidentielle.
L'opposition restera l'opposition dans ce gouvernement jusqu'à l'organisation des élections.
Merci Jean-Marc Kabound. Monsieur André Alain Atundu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Lui, Michel Bankina, je vous appelle à partir de Kananga. Apparemment, la majorité présidentielle est de mauvaise foi parce qu'elle pense qu'elle peut continuer à imposer sa loi à tout moment, même quand elle n'en a pas les droits. Et depuis la signature du dit accord, l'attitude de la majorité présidentielle n'est pas bonne. Elle pense mettre quelqu'un manipulable à la primature pour qu'on ne puisse pas avoir les élections cette année. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça.
J'ajoute, M. Atundu, cette réaction de Maurice Kabamba de Lubumbashi qui dit « La majorité présidentielle se croit tout permis, c'est comme une équipe de football qui impose à l'arbitre que l'équipe adverse lui présente ses 23 joueurs retenus afin d'en choisir les 11 qui pourront débuter le match. C'est une façon de reconnaître ses faiblesses et si l'opposition en son tour leur demandait la liste de 2 ou 3 pour y choisir un président de la transition, qu'en serait-il que la majorité privilégie l'intérêt commun ?»
C'est un canular qui nous raconte là. D'abord, la majorité présidentielle est tout à fait de bonne foi. C'est parce que elle voudrait que l'engagement solennel que nous avons pris ensemble de respecter la Constitution dans son intégralité soit reconnu et pratiqué. Et donc, exiger de se conformer à la Constitution, ce n'est pas être de mauvaise foi.
Mais le professeur Kabamba a signalé que le rapport des forces va actuellement au-delà du Parlement.
Non, le rapport des forces ne va pas au-delà. L'article 78,
personne n'est engagé
les élections. L'article 78 de la Constitution nous dit nous dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Mais la majorité présidentielle a été consultée pour que le dialogue puisse se tenir, être convoqué par le chef de l'État. Donc on n'a pas quitté le cadre, le cadre constitutionnel. Et ensuite, il faudrait dire la vérité au peuple par une interprétation exacte. Respecter la Constitution, qu'est-ce que ça veut dire ? Respecter la Constitution veut dire que lorsqu'il y a plusieurs interprétations d'une disposition constitutionnelle par les acteurs politiques, seule la disposition, l'interprétation de la Cour constitutionnelle a valeur normative. Et donc on ne peut pas parler de la fin d'un mandat. Alors, le mandat continue pleinement.
À ce niveau-là, M. Atundu, n'y a-t-il pas, comme l'a relevé également le professeur Félicien Kabamba, un problème d'harmonisation entre l'accord et la Constitution? Tantôt c'est l'accord qui a primeur, tantôt c'est la Constitution. N'y a-t-il pas un certain amalgame?
Non, il n'y a pas d'amalgame. De toute façon, pour la majorité présidentielle, toute disposition de l'accord qui serait contraire à la Constitution serait nulle et de nul effet. Mais je pense plutôt que le rassemblement tente de trouver la petite bête pour créer une atmosphère de crise et peut-être, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, pour revaloriser leur plan de prise de pouvoir par le chaos ou bien d'instituer un régime d'exception. Je pense que la paix sociale, la sauvegarde du processus électoral exige de nous tous de nous dépasser, exige de nous tous d'avoir un esprit d'ouverture, un esprit de tolérance, pour ne pas reprendre l'expression de l'honorable Lissandre. Et ici, je ne vois pas en quoi la majorité présidentielle corromprait le rassemblement, puisqu'il y a 5, 6... Le secrétaire général a dit qu'il peut présenter 30. Mais si sur les 30, il craigne que, quelle que soit la personne qu'on va prendre, il va céder aux appels de la majorité, c'est qu'il n'est pas sûr de ses cadres. Nous, de la majorité, nous sommes sûrs de notre cadre, de nos cadres. Je pense que c'est une peur, c'est une appréhension interne.
Le risque de corruption est grand, le risque de débauchage est très élevé.
Mais la qualité morale, vous pensez qu'il n'y a que l'opposition qui risque d'être corrompue par la majorité? Mais la majorité aussi risque d'être corrompue par l'opposition. Et si nous n'avons pas ce genre de peur, parce que nous avons confiance en nos délégués et en nos cadres, quels que soient les cas de figure, que le Premier ministre soit de l'opposition comme maintenant, il ne pourra pas corrompre un ministre que nous avons envoyé au gouvernement. Et ça, c'est notre garantie, et c'est ça notre force, c'est peut-être ça que le rassemblement n'a pas.
Robin Kingambo de Kinshasa dit « Je ne pense pas que le chef de l'État qui avait demandé les bons offices à la CENCO pour matérialiser l'accord ait besoin de lui présenter les noms des 5 candidats. Je comprends maintenant que la majorité ne connaît rien de la politique du chef de l'État. Ils agissent à contre-courant avec le président de la République. »
Il doit d'abord chercher à comprendre la Constitution et savoir si la pratique politique du chef de l'État est contre la Constitution. Le chef de l'État, la majorité présidentielle, a pris l'engagement, c'est écrit dans sa charte, de soutenir toute action du chef de l'État. Et vous n'avez pas entendu le chef de l'État, décrier les initiatives de la majorité. Nous sommes dans la défense des intérêts politiques. Nous ne sommes pas venus en négociation pour dire « Amen, amen ». Tout comme l'opposition. C'est à force de la pertinence, n'est-ce pas, et de la percutance des arguments que les uns et les autres parviennent à un accord consensuel.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Moi, c'est ingénieur Lino Edouard de Lubumbashi. À mon avis, que le rassemblement propose un seul candidat ou qu'il en propose plusieurs sur une liste, cela ne devrait poser aucun problème. D'autant plus que le candidat que le chef de l'État nommera est membre de l'UDPS, se réclamant d'Étienne Tshisekedi. À moins que l'UDPS ne soit à court de candidats, ce que je ne pense pas. En tant que garant de la nation, le chef de l'État exerçant son pouvoir discrétionnaire choisira le candidat qui répond le mieux aux critères fixés et qui ne sera pas un obstacle quant à ses rapports avec lui dans la bonne marche de la République. Que l'UDPS propose une liste de ses meilleurs éléments et le plus tôt sera le mieux pour ne pas perdre du temps.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Robert de Bukavu qui dit « Je pense que ce serait mieux de laisser seul le rassemblement désigner le Premier ministre selon son critérium. Lui demander de présenter la liste des candidats à la primature, ce serait violer aussi l'accord de la Saint-Sylvestre et surtout ne pas vouloir responsabiliser le rassemblement face à l'avenir politique de la RDC. »
Bon, voilà, vous avez là plusieurs opinions qui ont été exprimées. Et je crois que les politiques vont certainement se pencher dessus et vont nous proposer une formule qui soit acceptable par tous. Mais très sincèrement, je voudrais ici signaler le fait que le choix d'un Premier ministre ne vient jamais du hasard. Il est généralement fondé sur les calculs des acteurs, sur les attentes des acteurs, mais aussi il est fondé sur d'autres paramètres politiques qui ne sont jamais communiqués. Et donc, ne croyez pas que les acteurs politiques viendront au micro vous dire pourquoi ils voudraient que ce soit telle ou telle autre formule qui soit dans l'accord. Il y a beaucoup de paramètres qui déterminent le choix de Premier ministre. Mais quand vous suivez bien les rassemblements, eh bien, il s'agit aussi, parce que vous devez reconnaître que une bonne transition, elle s'apprécie également par la capacité qu'a un Premier ministre de montrer qu'il a été plus ou moins indépendant du chef de l'État. Et donc, quand vous regardez la plupart des transitions, c'est pourquoi d'ailleurs il faut bien préciser ce qu'on entend par transition dans l'accord aussi bien du 18 octobre que l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'est-ce qu'on entend par transition? Par le passé, eh bien, un premier ministre de transition devait être un monsieur qui est plus ou moins indépendant et qui marque une rupture brutale avec l'ancien ordre. Et donc, actuellement, on a besoin... Le rassemblement semble avoir besoin d'un Premier ministre qui est plus ou moins indépendant du chef de l'État. Quand vous écoutez bien, le son de cloche qui est de l'autre côté, il cherche plutôt d'autres garanties. Ils veulent avoir un Premier ministre qui va véritablement collaborer avec le chef de l'État et non pas lui faire ombrage. Il s'agit là de positions qui peuvent être conciliées. Et c'est là aussi le travail que fera la SENCO.
Alors, professeur, la SENCO a prévenu ce mercredi qu'elle ne pourra plus poursuivre ses bons offices au-delà du 21 janvier 2017. Il y a Patrick Mbouli de Lubumbashi qui dit « Vu les positions des parties prenantes à ces travaux, la crise est loin d'être résolue car chaque parti veut à tout prix garantir ses intérêts, oubliant l'intérêt supérieur de la nation et la vie démocratique de notre pays. Sur ce, j'invite la SENCO, si les acteurs politiques n'arrivent à aplanir leurs divergences, à appliquer son plan B, que je crois qu'il pourra résoudre la crise politique et celle de légitimité que les politiciens ont eux-mêmes créée. »
Bon, je crois que la SENCO a une responsabilité vraiment historique, très très grande sur ses épaules, et elle va probablement agir comme elle a eu à agir par le passé, c'est-à-dire essayer de faire des propositions aux uns et aux autres, quitte à voir si, eh bien, les différentes parties vont mordre à la maison. Et si les divergences continuent, eh bien, les ultimatums ne suffiront pas. Il faudra absolument que la SENCO s'implique en faisant des propositions et à les faire accepter par les partis.
La semaine passée, il avait été annoncé que ces travaux devaient se terminer le week-end passé. Une nouvelle annonce est pour ce week-end. La SENCO est aussi lasse, professeur. Elle en a assez.
Exactement, exactement. Mais on est arrivé à un moment où elle ne peut plus faire marche arrière. Le travail abattu par la SENCO a été énorme et a été de très bonne qualité. Il me semble qu'on est arrivé à un moment où il faut absolument trouver le bout du tunnel. Et ce bout du tunnel viendra de l'intelligence de la SENCO.
Alors, on est à un moment, professeur, où le Front pour le respect de la Constitution a signé l'accord de la Saint-Sylvestre. Certains opposants signataires de l'accord du 18 octobre affirment être prêts à signer le compromis, mais si il faudrait que l'on précise le chronogramme des élections en 2017. C'est notamment certains membres du gouvernement Badibanga.
Bon, la situation de membres du gouvernement Badibanga est un tout petit peu particulière parce que ces personnes qui, au départ, n'avaient pas déclaré être très concernés par cet accord, qui sont aux affaires, considèrent que l'accord, le signer, c'est scier l'arbre sur lequel ils sont assis. C'est une situation assez particulière, mais je crois qu'avec les travaux faits par la CINCO, il pourra certainement leur donner un certain nombre de garanties pour qu'ils viennent signer l'accord. Et ils sont dans une situation assez particulière par rapport aux autres acteurs.
Vous avez suivi également, professeur, M. Atundu, qui a estimé que le problème que vous avez soulevé d'harmonisation entre l'accord et la Constitution ne se posait pas.
Bon, en fait, vous devez savoir que pendant la transition, les anciennes transitions, il y avait un accord qui était coulé dans la Constitution. Les accords étaient coulés dans la Constitution.
Pour faciliter les choses.
Faciliter les choses. Et quand vous regardez même dans le régime 1+4, l'accord qui avait été signé de l'autre côté, en Afrique du Sud, a été coulé dans la Constitution de la transition. Ici, si nous avons un accord qui n'est pas coulé dans la Constitution, parce que la Constitution continue à exister. C'est pourquoi il y a là un faux concept de transition qui est, à mon avis, dû au fait qu'on n'a pas organisé les élections dans le délai. On s'est dit, avant d'organiser les prochaines élections, on crée une période. Mais comment on va gérer cette période? C'est là qu'un accord s'imposait. Mais maintenant, comment on va à la fois appliquer l'accord et appliquer la Constitution? Parce que même quand il dit que voilà, la désignation du Premier ministre se fait bel et bien dans le cadre du rapport de force parlementaire, eh bien, il dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et donc, est-ce que le Premier ministre présenté par le rassemblement sera issu de la majorité? C'est là qu'il faut à la fois tenir compte et du prescrit de l'accord et du prescrit de la Constitution.
Merci,
il faut donc une bonne intelligence politique des acteurs pour qu'on arrive, évidemment, à
mieux
appliquer
les deux.
Et l'accord et la Constitution.
Merci. Jean-Marc Kabound, comment vous entrevoyez la suite de ces travaux? La CENCO, je le disais, a prévenu qu'elle ne pourra plus poursuivre ses bons offices au-delà du samedi 21 janvier 2017. Pensez-vous qu'un accord, que ces travaux pourraient finalement prendre fin avant la fin de ce week-end en guise de conclusion?
Oui, je vous ai dit tout au départ de cette émission que j'étais très très optimiste. Parce que le gros du travail avait déjà été fait avec la signature de l'accord proprement dit. Je crois sincèrement que les uns les autres privilégieront l'intérêt général de notre pays au détriment de leurs propres intérêts. Mais ici, il faudra que je puisse recadrer un tout petit peu ce qu'a dit mon co-débatteur, l'ambassadeur André Latundu, que le président de la République a été dépouillé un tout petit peu ou carrément de son pouvoir discrétionnaire de désigner le Premier ministre dès lors que l'accord politique lui impose d'accepter un Premier ministre qui n'est pas de sa famille politique. Donc là, nous devons être clairs parce que le Premier ministre sortira de d'une opposition au président de la République. Et du fait, nous ne pouvons pas parler d'un pouvoir discrétionnaire parce qu'il reviendra au rassemblement de présenter le Premier ministre au président.
Merci. Donc, Jean-Marc Kabound. Monsieur l'ambassadeur Atundu, qu'est-ce que vous répondez directement à Jean-Marc Kabound en guise de conclusion?
Directement, ceci n'enlève pas le droit de veto du président de la République. Nous revenons à la case du départ. C'est une question de bonne volonté. Le rôle d'un Premier ministre n'est pas de combattre le chef de l'État, même en période de cohabitation. Le rôle d'un Premier ministre, c'est d'exercer une autonomie fonctionnelle efficace. Et là, le président, la Constitution prend des dispositions pertinentes pour qu'il n'y ait pas de confusion de rôle. N'est-ce pas? Ça, c'est de un. Donc, ce que l'on demande à un Premier ministre aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité de réaliser les deux objectifs de son gouvernement, à savoir le processus électoral et la paix sociale.
Et vous pensez que d'ici ce week-end, ces travaux pourraient se clôturer?
Tout est possible aux gens qui, de bonne volonté. Le rassemblement doit revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis des dispositions constitutionnelles s'il tient au processus électoral et à la paix sociale.
Professeur Félicien Kabamba, un mot pour terminer.
Alors, moi, je crois que l'accord sera bel et bien trouvé entre la majorité et l'opposition. Et je voudrais pour cela saluer le travail qui a été accompli par la CENCO.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.